Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 123e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis à 8h avec notre sélection d'actu. Une sélection d'actu que je réalise avec mon ami Caféine. Salut Caf.
Oui, bonjour Fesquil.
Quel ton sobre.
Extraordinaire. Je sors d'une excellente réunion et nous avons un planning assez violent et ouais. Il faut qu'on soit concentré aujourd'hui.
Ouais, on a une conduite qui est assez chargée et on va y aller tout de suite parce qu'on a une grosse section gaming et on commence avec de mauvaises nouvelles encore du côté de chez nos amis de GeForce Now.
Ouais, qui a été renommé avec petit jeu de mots par certains taquins, GeFlop Now. Ce n'est pas très gentil, je trouve, car le service est très bien, mais c'est plutôt les éditeurs qui font chier. Je n'ai pas d'autres mots, pour des raisons évidemment mercantiles. On n'est pas des petites souris dans les salles de réunion, mais on est quand même un petit peu agacé de voir les éditeurs se barrer en disant « Oui, mais finalement, Nvidia, ils nous avaient rien demandé, etc. Leur service cloud, on ne gagne pas d'argent dessus, ça ne va pas du tout. » Donc après Activision Blizzard, après Bethesda, c'est 2K Games qui a décidé de retirer ces jeux du service de cloud gaming. Je sais que chez certains, bon voilà, les BioShock, les NBA 2K, c'est pas très grave, Borderlands, tant pis. Mais moi, j'ai une petite pensée pour Archeon qui a vu disparaître Civilization et ça n'a plus de sens depuis. Et qui, du coup, n'est plus pas très content. J'attends de voir ce que ça va donner, mais clairement, il y a une problématique au niveau de cette gestion du cloud par les éditeurs. Peut-être que c'est parce qu'ils ont des projets dans leur petit dossier secret et qu'ils veulent garder leur opportunité ouverte. Mais qui veulent pas voir le service s'installer finalement grâce à leurs produits, ce que je peux comprendre. Hein. Nous, on a des fois cette discussion autour du monde du podcast, par exemple.
C'est ça.
La façon dont c'est fait, c'est un petit peu chelou. Moi, du coup, j'attends de voir ce que ça va donner, par exemple, avec des services comme Shadow, qui te permet d'avoir un ordinateur complet dans le cloud, mais au final, c'est pour faire les mêmes choses.
Ils font une promo pour le moment, en plus, chez Shadow, j'ai vu.
C'est pas une promo, ils ont réaligné leurs tarifs.
Ah, c'est ça, okay.
On n'avait pas prévu d'en parler, mais effectivement, ils ont réaligné leur tarif à $12. Alors, je ne sais pas en euros ce que ça donne. Ils ont vachement baissé leur prix et annoncé des centres serveurs directement aux États-Unis. Mais c'est évident que c'est pour aller contrer Stadia et justement GeForce Now qui, à l'époque du lancement de Shadow et de la nouvelle version, n'était pas du tout sur les radars. En tout cas, pas à ce niveau-là. Donc voilà, donc on attend de voir ce que ça va donner. Moi, je suis plutôt du côté Nvidia dans le sens où je trouve que le service est plutôt bien et si les éditeurs espèrent revendre deux fois leurs jeux sur les plateformes ou trois fois leur jeu à chaque fois parce que bah, on peut pas y jouer en remote via le cloud, c'est vraiment des techniques de gain petit et ils méritent pas l'argent qu'on leur donne tout bêtement. Donc déjà on les a mal habitués, hein. Il y a des titres effectivement qu'on a acheté à peu près sur 52 plateformes et avec le cloud ça n'existe plus ce genre de truc. Donc si c'était pour eux leur notion du business, on va avoir un souci, surtout qu'on évolue maintenant dans un monde de game as a service. Bah faut assumer jusqu'au bout les mecs, tu peux pas vendre des skins à 18 balles sur un putain de perso, déjà ça me rend dingue, et à quel côté de demander aux gens de racheter le jeu à chaque fois. Donc choisissez votre business model, tenez-vous-y, et puis essayez d'être juste un petit peu judicieux dans votre gestion de vos clients, parce que là j'ai pas l'impression que le client soit toujours roi.
Les mauvaises nouvelles suite au coronavirus, c'est l'annulation de l'E3, on le sentait venir un peu quand même.
Et oui, ça continue. Donc là, tous les events tombent les uns après les autres comme des mouches, puisque en fonction des pays et des lois qui sont passées pour éviter la propagation de l'épidémie, c'est plus ou moins violent et ça dépend où vous êtes en fait. Mais pour nous, c'est un truc là qui nous touche dans notre petit monde du jeu vidéo. Évidemment, ça changera pas la face du monde, mais c'est l'annulation officielle de l'E3 2020. Donc je vous rappelle pas, hein, c'est l'E3 2020, c'est ce salon, ce véritable Noël du jeu vidéo comme certains l'appellent, où tout le monde y va de sa petite annonce qui était déjà un peu moribond depuis ces dernières années puisque les éditeurs sont en train de se rendre compte qu'ils pouvaient faire leur truc dans leur coin, sans eux, à leur rythme et n'avaient pas besoin de ce salon pour annoncer leur line-up de jeux ou de nouvelles machines, par exemple, coucou Microsoft qui comptait justement dévoiler la nouvelle Xbox pendant cette E3, a priori, ça ne sera pas le cas et du coup, tout le monde se dirige vers des systèmes à la Nintendo Direct avec des vidéos directement accessibles en streaming ou sur YouTube après coup, etc. Donc la bonne bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas à se taper les présentations de Ubisoft sur Dance Dance Bidule cette année là.
Et l'accent de Guillemot.
Et ouais, ça va me presque manquer ça. Mais
on n'aura pas d'Achet Tyler non plus, cela dit.
Voilà, donc du coup, ça, la vraie question qui se pose après cette annonce, c'est que est-ce qu'il va revenir en 2021 en fait ?
Bah oui.
Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui vont découvrir que finalement, on fait très bien sur le 3, que c'est moins cher, qu'on fait exactement ce qu'on veut quand on veut, et que bah, finalement, il n'y a pas besoin de se faire chier. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour voir ce que ça va donner. Mais comme je rappelle qu'il y avait plein de gros éditeurs, Sony en tête de liste, qui avaient décidé de ne pas y être de toute façon, ouais. Ça n'a pas aidé, virus ou pas. Donc voilà, ça sera la surprise l'année prochaine, mais je pense que ce salon qui est quand même n'a pas eu d'interruption depuis 1996, que moi j'avais connu sous sa forme CES en fait, avant que ça devienne l'E3 en été, bah, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, a fait son temps, et à l'époque d'Internet et surtout du streaming, je pense que maintenant on peut faire sans. On aura des réponses l'année prochaine.
Et puis une petite surprise en ce qui me concerne, parce que tu veux nous parler de Worms, un nouveau Worms.
Mais ouais, mais un Worms, hein, tout le monde connaît, ça bah fait 1000 ans que ça existe, et Team 17 a annoncé qu'il y aura un nouveau Worms, et en 2020, donc cette année, ça joue clairement sur la nostalgie, hein, parce que à côté de ça, il y a zéro annonce, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quand, on ne sait pas exactement ce que ça sera, quelle gueule ça va avoir, on sait juste que ça va arriver. Donc voilà, bah, si vous y jouez toujours, et je sais que pas mal de gens jouent aux dernières versions, tenez-vous prêts, parce que ça ne devrait pas tarder à se dévoiler un petit peu plus, et moi je suis content, c'est un des jeux les plus débiles que tu puisses faire en multi, et ça change de tous mes FPS sur lesquels je passe beaucoup trop d'heures, voilà.
C'est un peu un ancêtre du Battlegrounds, Worms.
C'est ça.
C'est pour faire la transition, attention, hop, on va parler du Battlegrounds de Call of Duty. Merci.
C'est un métier. Les gens se rendent pas compte de cette expérience que tu cumules.
Warzone.
Alors, Call of Duty Warzone, les enfants, comment vous dire?
Moi, je l'ai vu en streaming, je crois que c'est hier ou avant-hier, il y avait toute une section, il y avait plein de streamers, il y avait une espèce de tournante, le mot est peut-être pas bien choisi, mais en tout cas, il y avait un cycle de streamers qui passaient sur Twitch pour montrer donc Warzone. Mm-hmm. Et ça avait l'air plutôt sympa, hein. Ça avait l'air un peu plus compliqué qu'un Battlegrounds classique, mais
Donc effectivement, Activision a un peu surpris tout le monde avec ce Warzone, puisque c'est, on savait que c'était en développement, mais je t'avoue qu'il est un petit peu arrivé par surprise. Moi, j'étais pas, au courant que c'était maintenant, là, tout de suite, et que, en fait, il allait être intégré dans le mode Call of Duty classique. Donc, si vous avez acheté le jeu, en fait, bah, ça cumule les points, les trucs que tu vas débloquer dans Call of Duty, le dernier qui est sorti, tu vas pouvoir les récupérer dans Warzone.
D'accord.
Là où ça a été hyper malin, c'est que même si le compte est commun, vous n'êtes pas non plus complètement emmerdé si vous venez de télécharger le jeu en free-to-play. Vous n'allez pas vous retrouver trop désavantagé par rapport aux gens qui sont en train de saigner le Call of Duty de base depuis qu'il est sorti, parce que les trucs sont rééquilibrés, ne sont pas forcément disponibles dans le mode Battle Royale. Donc ils ont fait attention à ça. Et moi, j'ai été extrêmement surpris parce que j'avais un peu saigné la version mobile. Jugez-moi si vous voulez.
Oui, je me souviens, oui.
Voilà, et du coup, j'ai récupéré, il y avait des espèces de monnaies internes que tu gagnes quand tu joues, et ben ce truc-là, en fait, est cumulé.
D'accord.
Donc j'ai pu acheter, évidemment, c'est un free-to-play, donc il y a un système de Battle Pass, il n'y a rien de nouveau, je vous réexplique pas ce qu'est un Battle Pass, c'est que là, ça, du cosmétique comme d'habitude, il y a un tiers gratuit comme d'habitude, et il y a un tiers que tu récupères avec la monnaie du jeu, et j'en avais, comme j'avais joué à la version mobile, ben, j'ai pu débloquer le Battle Pass et récupérer des skins gratos, parce que j'avais donc cette monnaie qui est la même dans toutes les versions, ce qui est plutôt une bonne chose, et quand on parle d'Activision, c'est toujours un petit peu surprenant.
Oui, clairement.
Pour vous resituer la chose, donc Warzone, en termes de taille, si vous avez la DSL, je préfère vous prévenir, si vous voulez y jouer ce week-end, allez-y maintenant, dès lundi matin, téléchargez-le.
Je peux comprendre que c'était un peu massif.
Voilà, donc ça fait 90 gigas. Ça y est, on est dans l'univers des jeux à 100 gigas. C'est normal. Ensuite, une fois que tu l'as installé, téléchargé et installé, il y a des shaders en fonction de ta carte graphique que tu peux préloader. Donc ça, le premier lancement est toujours plus long, en fait, parce qu'il faut qu'il calcule ça. Il y en a pour un petit peu de temps en fonction de votre bécane et de votre carte graphique. Et ensuite, il y a un training obligatoire, et ça, c'est une excellente nouvelle, car effectivement, comme tu le disais, il y a plusieurs modes, il y a plusieurs choses à comprendre, l'interface est un petit peu différente, et du coup, on va parler de ça tout de suite, mais c'est pour bien vous dire que si vous avez prévu de rejoindre vos potes pour aller jouer en soirée, ça va pas forcément être possible. Prévoyez de vous y prendre un petit peu en avance. La bonne nouvelle pour Activision, c'est qu'a priori, ils annoncent des stats de malade avec 6 millions de joueurs recrutés en 24 heures, qui sont inscrits, qui ont récupéré le jeu. Ça, c'est l'effet Call of Duty. J'ai envie de te dire que je suis pas très surpris. Pour vous donner un ordre de grandeur, Apex, c'était l'ancien record avec 2,5 millions. C'était en plus déjà devant Fortnite. Donc là, on est quand même sur des gros poids lourds. Apex a absolument pas baissé de fréquentation, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en tout cas, quand tu joues, quand tu lances une game, c'est toujours aussi rapide. Apex, là-dessus, il est intouchable. Et malgré ces 6 millions de joueurs sur Call of Duty, bah, nous, on a eu pas mal de problèmes pour trouver des parties, pour que les lobbies se décantent, entre guillemets. Et c'est un petit peu normal, car Warzone, la grosse différence avec tous ses concurrents, c'est que ça se joue sur une carte énorme et avec 150 joueurs. Donc, d'accord, il faut réunir 150 joueurs à chaque fois.
Ah oui, c'est pas mal.
Voilà, donc on est loin des teams des 60 sur certains modes de Apex, etc. Tu vois, donc c'est vraiment très différent. Sur ce Warzone, il y a deux modes de jeu. Il y a un mode Battle Royale qui va nous intéresser et un mode Plunder qui est de la merde, donc je vais pas en parler.
Ça c'est fait.
Alors, vite fait, Plunder, c'est un mode qui est... je comprends l'intérêt, c'est... il y a de l'argent sur la carte. Tu récupères... Le but du jeu, c'est d'avoir la team qui a le plus de fric possible. Les teams qui a le plus d'argent est marqué sur la carte, donc les autres peuvent le chasser. Et quand tu meurs, tu récupères, tu perds ta thune et les autres vont récupérer ton fric. Et donc, du coup, le but du jeu, c'est de non seulement d'aller se balader sur la carte, mais aussi d'aller chasser les autres équipes pour gagner le maximum de fric. Et une fois que tu as récupéré suffisamment d'argent, tu peux l'élitreuiller. T'as des hélipads un peu partout et donc tu peux appeler un hélico et mettre ta mallette de bifton et pour le mettre à l'abri pour pas pouvoir te la faire piquer, en fait. C'est comme ça que tu peux faire augmenter ton score. Okay. Donc voilà, c'est un peu rigolo. T'as pas que ça, tu peux mettre aussi des ballons. Enfin bon, bref, le concept global, c'est ça. Je suis pas ultra fan. C'est pas pour moi quelque chose de hyper intéressant à jouer. Par contre, le Battle Royale, il est vraiment intéressant. Faut savoir un truc, c'est qu'il est cross-platform. C'est-à-dire que quand vous jouez, on va vous mixer avec des gens sur Xbox et PS4 aussi. Okay. Donc parfois, vous allez voir des gens level 1 sur PS4 ou Xbox qui jouent au pad. C'est important. C'est-à-dire que bah vous avez perdu, en fait.
Les pauvres.
les mecs sont pas très rapides, même s'il y en a des très bons au pad. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est pas le cas tout le temps. Et quand un mec moyen ou mauvais est sur console, bah c'est encore pire que sur PC. Est-ce que, en tout cas, c'est moi ce que j'ai vu sur les quelques jours avec lesquels j'ai pu jouer, tu vois. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que pour l'instant c'est squad obligatoire, exactement comme Apex, 3 joueurs minimum, enfin minimum, 3 joueurs. Point barre. Il y aura un mode solo peut-être plus tard. A priori, c'est prévu dans les cartons, mais ils veulent pour l'instant que les gens apprennent le jeu en squad, ce qui est plutôt malin. Évidemment, c'est les Call of Duty, donc vous retrouvez plein de véhicules. Il y a des quads, il y a des hélicoptères. Tu peux tuer les gens avec l'hélicoptère. Ce n'est pas juste un effet de rigolo avec la bande-annonce que je vous conseille d'aller voir. Elle est marrante, la bande-annonce.
Alors moi, j'ai vu un truc très rigolo. Je t'interromps en parlant d'hélicoptère, ouais, justement dans un des streams où t'as en fait un squad de mecs qui est dans l'hélicoptère et qui se prend en fait un drop sur l'hélicoptère. C'est le drop avec les grosses munitions et tout. C'est fantastique. Donc les mecs sont en train de voler tout, puis tout à coup c'est l'hélicoptère explose, personne comprend ce qui se passe, donc ils passent les replays et tout et ils voient qu'en fait ils sont faits mais juste pile poil, le truc est tombé juste sur les hélices. Pas de chance.
Et quand tu vois la taille de la carte, c'est vraiment le karma, c'est il ça, est pas ouais. Bon là, tu vois. Donc c'est assez rigolo, mais surtout, alors donc si t'as un sniper qui est sur un bord d'immeuble par exemple, si tu passes en hélico à côté de lui ou si tu vois un mec qui est encore en train qui redrop, je vais y venir parce qu'il y a une gestion de la mort qui est assez rigolote, et ben en fait, tu peux découper les mecs façon saucisson avec les pales de l'hélico, ça marche. C'est pas juste pour faire beau dans la bande-annonce, c'est vraiment dans le gameplay. Je trouve ça assez rigolo. Et donc le truc le plus intéressant dans ce jeu, il y a des drones. Hein, je vous passe sur la tonne d'armes dispo dans un Call of Duty. Donc tu peux customiser plein de trucs, tu peux faire des loadouts, tu peux débloquer plein de choses. Il faut jouer avec les armes en question. Hein, d'ailleurs, si vous voulez débloquer des choses sur une arme en spécifique, il faut la prendre même quand elle a rien. Tant que tu joues pas avec, tu vas pas pouvoir la monter, donc tu vas pas pouvoir débloquer de trucs. Mais ça, c'est un système que tous les joueurs de Call of Duty connaissent. Au niveau d'équilibrage, j'en parle pas, j'ai pas assez de recul, mais les gens qui débloquent plein de choses versus les gens qui viennent les mains dans les fouilles pour la première game. Bon, je sais pas à quel point c'est déséquilibré, étant donné que tu peux récupérer plein de choses sur la carte en direct, et que ce système de loadout ne marche que sur des points où tu vas acheter, en fait, enfin, avec l'argent que t'as gagné in-game, que tu vas pouvoir récupérer finalement des trucs que tu as pré-préparé. Donc, il faudra un peu plus de recul. J'aime pas trop le système, mais bon, faut voir. Maintenant, je termine sur le truc le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand on meurt dans ce Battle Royale.
Ouais, c'est ça qui m'avait l'air bien, en fait.
Alors ça, c'est rigolo.
Pour moi, surtout. Je me souviens de partie de PUBG où je meurs assez vite et donc je passe 20 minutes à regarder un film, en fait.
C'est ça. Et là, tu as une chance au grattage. C'est tout. Tu n'auras pas de tirage. C'est-à-dire que le goulag, c'est one time. Si tu meurs dans le jeu, tu vas te retrouver en prison, traîné par des gens pas gentils, et tu vas avoir un fight 1v1 dans une espèce de douche
un truc de prison,
une arène, en fait, une arène avec des mecs autour dans une corniche, enfin tout autour, qui peuvent te regarder, qui sont les autres joueurs, en fait, qui attendent leur tour. Et ce 1v1, tu vas avoir une arme et un truc random à chaque fois, et tu vas devoir battre le mec d'en face pour pouvoir revenir sur la carte directement et gratuitement. sans devoir te faire racheter, qui est l'autre mécanique pour revenir dans le jeu. Tu peux être racheté par ton équipe dans certaines stations qui, avec l'argent que tu récupères sur la carte, peuvent te dire, bon, bah voilà, pour 4 500 $, je voudrais récupérer Fast Kill, ou dire, non, finalement, on va jouer à deux parce que ça ne sert à rien, je vais plutôt acheter une arme.
Va mater ton film.
Je vais plutôt acheter une arme. Donc voilà, c'est vraiment hyper bien pensé, et de ce côté-là, c'est assez intéressant. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont faire sur la longueur. Moi, je suis assez inquiet parce que 150 joueurs,
ouais, c'est beaucoup, hein.
Dès que le jeu va un peu perdre en popularité, etc., ça peut être compliqué. Moi, j'ai déjà eu du mal à trouver des games à 25 ou 40 millisecondes. En fait, le titre, quand il fait les lobbies, il essaye de regrouper les gens, évidemment, par zone. Et j'ai déjà eu du mal. Alors, est-ce que c'était parce que les gens n'avaient pas téléchargé les 90 gigas ou pas? Je vous dirai ça ce week-end. Mais on verra. Mais en tout cas, moi, j'ai un très mauvais souvenir de Call of Duty Blackout, qui avait été complètement abandonné par Activision et qui, il était impossible de jouer en Europe très rapidement. Donc, on verra ce que ça donne avec cette version-là. Mais en tout cas, sur le papier, c'est plutôt bien barré. Techniquement, c'est très joli. S'il faut un PC un peu costaud, et attention, il taxe pas mal le CPU. Donc là, je suis en train de regarder les configs à base d'AMD. Alors, j'ai pas d'argent, merci. Abonnez-vous au Patreon. Et franchement, parce que je peux pas streamer, par exemple, ce jeu, c'est impossible pour moi avec mon PC actuel de streamer et de jouer en même temps. Ma bécane, elle fait genre non, non, non. Et mon perso, il se met en patin à roulette, tu vois. Donc, je perds pas forcément de frame, mais enfin, j'en perds un petit peu. Mais c'est surtout que mon perso se met à laguer. J'ai l'impression qu'il fait du patinage artistique. Il tourne 10 ans après que j'appuie sur la touche. Assez bizarre. Bref, écoutez, nous en tout cas on va y jouer un petit peu, mais je vous cache pas que ma première impression actuellement, je vais finir là-dessus, ça reste Apex et numéro un pour moi en termes de feeling, mais le public fan de Call of Duty est tel que je pense que son avenir est quand même assez bon, et ils ont prévu quelques extensions, en tout cas quelques modifications, apparemment il y aura des modes de jeu qui vont arriver, etc. Donc ils vont bien faire vivre le truc, ils ont compris qu'il fallait faire du game as a service, comme je disais tout à l'heure, et pas juste lancer le truc et puis espérer que ça marche tout seul.
Warzone donc, et puis on reste sur PC avec l'arrivée bientôt de Horizon Zero Dawn.
Voilà, t'as tout dit. Okay. C'est la bonne nouvelle. Y a des exclus PS4 qui vont débarquer sur PC. A priori, ça sera pas la dernière. Y aura évidemment un gros décalage avec les sorties PlayStation, mais on peut espérer que ce soit une nouvelle politique de Sony. Et puis là, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment se comporte le moteur d'Horizon Zero Dawn, puisque ça sera aussi le portage du jeu de notre ami le roi de la marche à pied,
Kojima.
Qui fonctionne avec le même moteur pour son dernier titre. Et du coup, tout ça devrait débarquer de manière assez intéressante sur PC pour les gens qui voulaient pas acheter de console. C'est une excellente nouvelle. Enfin, si vous vouliez y jouer, chacun ses problèmes. Hein, voilà.
Toi, t'avais bien aimé, en tout cas.
Moi, j'ai bien aimé le Horizon Zero Dawn. J'ai trouvé que c'était un excellent titre. Alors, je sais que on n'est pas du tout tous d'accord sur Geekzone, ne serait-ce que sur le forum. Moi, j'ai trouvé, faut pas comparer ça à un Zelda. Évidemment, c'est pas du tout du niveau Zelda. C'est pas un vrai open world. Mais si on rentre dans l'histoire et qu'on se kiffe vraiment le gameplay de combat contre les robots, les espèces d'animaux robots qui peuplent cet univers, moi je trouve que c'est très intéressant, et puis le niveau est assez relevé à la fin, hein. C'est-à-dire que les robots de la fin, pour les farmer, même quand t'as tout débloqué, c'est assez compliqué. Il y a un problème de gameplay qui est qu'une fois que tu as débloqué une armure un petit peu secrète entre guillemets qui te permet d'avoir une sorte de bouclier, bah tout le jeu devient un peu plus trivial, mais c'est quand tu joues en normal, hein. Si tu joues en dur, bon, ça va être vite problématique même avec le bouclier. Donc en tout cas, si vous n'avez pas du tout de PlayStation, que vous n'avez pas touché à ce titre, surveiller son arrivée sur PC, je pense que ça va être très intéressant.
Allez, on reste dans le gaming avec Dandara.
Dandara, c'est un truc dont on n'a pas du tout parlé, qui est très vieux, qui est en fait sorti il y a plusieurs années, et on en parle parce qu'il y a une extension qui sort. C'est un titre brésilien fait par un studio indépendant qui s'appelle Long Hat House, j'adore le nom, qui est publié par Raw Fury maintenant un peu partout, et qui est disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, Windows PC, Mac, Linux, iOS, Android, et bientôt sur PlayStation 4.
Il y en aura pour tout le monde.
Voilà, donc si vous avez pas, vous pouvez pas râler sur ce jeu. Si vous voulez jouer, c'est possible. Point. Pourquoi j'en parle, c'est rigolo parce qu'en fait, quand tu le vois, quand tu vois les screenshots, quand tu vois les vidéos, t'as l'impression de te retrouver face à un espèce de Céleste like. Alors que déjà, bon, il est sorti bien avant Céleste. Et en fait, en termes de gameplay, pas du tout. Tu diriges un personnage dans un univers ésotérique. Le scénario, il est rigolo, mais voilà, il est un peu perché. Donc, je vais pas m'étendre dessus. Ce qui est intéressant, c'est la mécanique de gameplay. En fait, t'as pas vraiment de saut. C'est ton personnage. Tu peux l'envoyer d'une zone à l'autre via des vecteurs, en fait.
D'accord.
Donc tu vas sélectionner un coin du plafond, ton perso va aller s'accrocher au plafond, et c'est plus un puzzle game qu'un jeu de réflexe du coup, puisque Alors, au début, on t'explique les mécaniques, donc on est très gentil avec toi, mais tu peux donc te déplacer via ces vecteurs sur des surfaces qui sont généralement marquées en blanc. Et avec le stick droit, ou stick virtuel droit sur des plateformes mobiles, tu vas pouvoir tirer dans toutes les directions pour activer des leviers, pour tuer des ennemis, faire débloquer des passages, etc. Et tu te retrouves dans une problématique plus donc proche du puzzle game que du jeu de réflexe, mais ça s'accélère assez vite. Donc, ne croyez pas que vous alliez pouvoir réfléchir pendant 1000 ans, parce que des fois, tu arrives sur des tableau où c'est un peu violent, mais c'est pas non plus très compliqué. Du coup, comme t'as pas cette notion de saut pixel près tout le temps, tu peux vraiment bien y jouer sur mobile. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, parce que pour moi c'est un excellent jeu pour iOS ou Android. Ça fonctionne vraiment bien et il y en a pas tant que ça qui soit pas des trucs un peu basiques, tu vois. Enfin, j'aime bien avoir ce genre de titre. La bonne nouvelle, c'est que donc ce jeu a été suivi de près par son créateur pendant longtemps, et là ils viennent de sortir donc une extension qui s'appelle Triads of Fear, qui rajoute en fait un volet à l'histoire, qui rajoute plein de choses autour du monde. Le monde en français s'appelle le monde de sel. Je pense que c'est là où habite Archéon.
Oh, le pauvre.
Ça fait deux fois. Pour ceux qui savent pas qui est Archéon et qui n'écoutent pas les clairvoyants, c'est un des animateurs des clairvoyants chez nous et qui est un membre éminent depuis de nombreuses années de Geekzone.
Beaucoup jouer avec nous sur Discord aussi.
Et voilà. Mais qui pleure souvent et qui, voilà, c'est le sel, c'est un peu sa tradition à lui. Si vous suivez les mèmes sur Internet, vous savez de quoi on parle. Bref. Et du coup, le monde de sel, il y a toute une histoire autour de ça. Donc, ils ont fait évoluer ça. Il y a plein d'explorations à faire. Avec des nouvelles mécaniques de jeu. Donc voilà, c'est vraiment pas cher, c'est un petit peu novateur, faites-vous plaisir. Moi, j'ai vraiment bien aimé, là j'ai pas eu le temps d'y jouer autant que j'aurais voulu cette semaine. Il y a eu trop de nouveautés, incroyablement, c'est pour ça que la section gaming est un peu violente cette semaine. Mais je suis vraiment hyper client de ce titre. Je pense qu'il y a pas mal de mecs qui sont un petit peu déçus en fait que ça soit pas des sauts et qui du coup se font avoir par ça. Une fois que vous avez compris ce truc là et que vous avez pigé son intérêt, qui est complètement différent, eh bien en fait ça fonctionne très bien. Allez voir, en tout cas il y a des vidéos, il y a plein de choses, on vous a linké plein de choses en billet qui accompagnent le podcast.
Allez, la vague du remake continue avec Command & Conquer Remastered.
Un truc de dingue. Le 5 juin, ça sera dispo sur Origin et Steam pour 20 balles. Si vous avez la nostalgie qui est là, vous allez pouvoir faire plaisir parce qu'ils ont fait un vrai beau remaster. Ça va nous changer d'un certain Warcraft 3 a priori. C'est réalisé par Petroglyph, et Petroglyph c'est une boîte qui a été fondée par les anciens de Westwood qui sont les créateurs de Command & Conquer. Donc les mecs, écoute, apparemment, ils savent gérer les backups, eux, pas comme certains développeurs japonais, je ne citerai personne, qui du coup, ont repris leurs vidéos d'origine, ont repris leurs mécaniques, ont repris leurs sprites, etc., et ont tout refait en HD, et ils ont vraiment fait du beau taf, même les vidéos, qui étaient vraiment dégueulasses sur les écrans modernes, là, ça se passe vraiment très bien, donc bien joué à eux, et du coup, vous allez pouvoir récupérer non seulement la version Command & Conquer, mais il y a aussi sa suite Command & Conquer Alerte Rouge, et les trois extensions qui étaient avec, donc on appelait ça des expansion packs, les jeunes à l'époque, il n'y avait pas de DLC. Le DLC, voilà, fallait avoir Internet, et Internet, à l'époque, c'était moyen quand même. Donc voilà, vous allez avoir Cover Up, Counter-Strike, pas le jeu, hein, l'extension, voilà, et The Aftermath. Donc il y a vraiment, vraiment de quoi faire en solo ou en multi. Je pense que ça devrait pas trop mal marcher, même si c'est vrai que maintenant, c'est si vieux qu'il y a que des gens avec ma couleur de cheveux ou plus de cheveux qui se rappellent exactement ce que c'était.
Et puis, des news du côté de Legend of Runeterra qui arrive enfin sur mobile.
Ouais, vite fait, c'est Riot qui est en train de tester sa version mobile en secret sur Singapour, on appelle ça les soft launch. Donc ça sent plutôt bon, puisqu'en fonction de ce que ça va donner, ça devrait pas tarder à débarquer pour les autres. On n'a pas grand chose de plus à dire, dans la mesure où pour l'instant, le titre, il est juste adapté à la taille de l'écran, et ils ont fait un travail de base dans la conception du jeu qui avait anticipé ce genre de problématique. Donc je pense que ça devrait fonctionner plutôt bien. Maintenant, j'ai pas du tout de chiffres, je sais pas si le jeu cartonne ou pas, donc on en reparlera plus tard dès que j'aurai plus d'infos.
Et puis des news aussi du côté de Rainbow Six Siege.
Ouais, ma nouvelle drogue du moment qui vient de sortir son update Season 5 qui s'appelle Opération Void Edge. Donc c'est un système de Season Pass comme d'habitude, mais qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez gagner de l'argent in-game et débloquer les nouveaux opérateurs sans dépenser d'argent, mais ça coûte 25 balles pour un an. Enfin, pas vraiment, puisqu'en fait le Season Pass ça reste le 31 janvier 2021. Pour avoir directement les, tous les opérateurs qui vont sortir cette saison. Il y en aura 6 normalement. Je crois qu'on va pas tarder, on doit être à 50 opérateurs à la fin de la saison là. C'est-à-dire que quand tu débarques dans le jeu, t'as un peu de travaux pratiques, tu
vois. C'est ça. Ouais.
Alors qui fait quoi, comment? Et là, les nouveaux, les premiers qui viennent de sortir, c'est Yana en attaque et Oryx en défense. Ils sont très rigolos parce que Yana, elle peut balancer un hologramme qui du coup se comporte et fait du bruit exactement comme un personnage normal. Donc pour partir en reconnaissance et faire flipper les mecs, c'est vraiment génial. Sauf qu'évidemment, tu peux pas tirer, tu peux tuer personne. Hein. C'est un holo fait à base de drones, machin, donc il est pas du tout attaque. Enfin, il est pas dangereux. C'est juste que tu vas mettre un petit peu de désorganisation dans la défense adverse. Et puis Oryx, qui est en défense, un gros bonhomme qui a un truc vraiment rigolo, qui est une charge. Il peut passer à travers certains murs du coup surprendre les mecs qui sont planqués de l'autre côté. Et tu prends un peu de dégâts quand tu fais ça, faut pas déconner. Tu peux aussi tacler les mecs au sol et les éclater. Et surtout, il peut passer par les trappes en passant par le bas. Avant, c'était tu peux sauter évidemment dans une trappe, hein, la physique de base. Mais lui, il peut s'agripper et monter à l'étage du dessus, ce que ne savent pas faire les autres, qui ont des petits muscles apparemment. ça change complètement la dynamique en termes de défense. C'est-à-dire que tu peux vraiment, t'es plus obligé de défendre certaines zones par le haut. Tu peux vraiment te mettre en bas et surprendre des mecs sans passer par des escaliers, etc. C'est vraiment sympa. Si vous avez jamais joué à ce titre, il était en promo, genre à 3 balles pour avoir la version de base. Faites-vous plaisir à la prochaine promo, parce que c'est vraiment le jeu que Ubi soigne depuis des années maintenant, et ils ont vraiment fait du bon taf.
Et puis on termine cette section gaming avec de nouveau notre ami le coronavirus, mais cette fois-ci pour de bonnes choses, on va dire.
Voilà, c'est y a quelques boîtes qui font des efforts pour que ça soit moins chiant à vivre pour les gens qui sont confinés. Discord en fait partie. Discord, c'est l'outil qu'on utilise maintenant que pratiquement tous les gamers connaissent. Hein. C'est plus de 2 millions, je crois, de personnes connectées par jour dessus. Et là, Discord a décidé d'ouvrir les vannes et d'augmenter les capacités en fait de streaming de Discord pour que les gens puissent partager leurs parties, puissent discuter à plus, etc., sans mettre la main au portefeuille. Donc maintenant, on peut avoir des lives à 50 au lieu de 10 gratuitement. C'est con parce que en fait, ça a l'air con comme ça, mais c'est une très bonne nouvelle parce qu'en fait, Discord est utilisé pas mal par les gens qui peuvent pas aller à l'école. Tu sais, cette catégorie de gens qu'on appelle les étudiants, les jeunes en fait.
Ouais,
on a oublié ça.
Ouais, c'est loin tout ça.
C'est loin tout ça. Et ben non, franchement, donc du coup, c'est vachement bien parce que du coup, quand ils veulent partager des choses, bosser ensemble, etc., il y a des cours qui sont faits à distance, et ben ils peuvent discuter à plein sans qu'il y ait de problématiques, ou voire même des classes peuvent faire des cours via Discord sans mettre la main à la poche. Et c'est donc une très bonne attitude de la part de Discord qui fait un excellent boulot de com gratuit. La preuve, on vient d'en parler.
Allez, on passe du côté des apps et je voulais vous parler très vite de la sortie de Firefox 74 ou 74, comme on dit chez moi. Il y a pas grand chose de neuf, hein, mais des choses dont on avait déjà parlé surtout, donc on va pas trop s'étendre. Il y a le DNS over HTTPS, hein, tu te souviens, on en avait parlé il y a 2 épisodes, je crois.
Exactement.
Voilà, donc c'est ce qui permet donc de chiffrer vos communications avec le DNS pour pas que des yeux malveillants viennent voir quel site vous visitez. Et puis au niveau des nouveautés, enfin c'est plutôt des abandons en fait, puisque donc Firefox lâche définitivement les protocoles TLS 1.0 et 1.1 et ne propose plus donc que du 1.2. Ce qui est quand même assez problématique pour pas mal de sites, mais on va pas rentrer dans les détails. Et puis ça c'était bien aussi, donc côté extension, Firefox va désormais bloquer toutes les tentatives d'applications tierces d'en installer sans votre consentement, ce qui était quand même un petit peu parfois relou quand t'installes des softs qui viennent de sources pas très, on va dire, legit. T'as parfois tout à coup des moteurs de recherche qui changent et des add-ons qui s'installent et qui viennent faire du mining de bitcoins sur ta machine. Bref, tout ça c'est fini. Je vous linkerai le billet que j'ai écrit cette semaine sur Geekzone concernant donc la sortie de Firefox 74 avec un lien vers le billet officiel qui vous détaille bien évidemment toutes les nouveautés, mais c'est surtout du bug fix. Enfin, je sais pas, peut-être que toi t'as repéré une fonctionnalité délirante que j'avais pas vue.
C'est vraiment le truc dont t'as parlé, c'est l'aspect sécuritaire qui met en avant les contenus, les containers en fait, qui permettent de verrouiller Facebook et compagnie et qu'il aille pas discuter avec les autres sites web qui sont gérés encore de manière plus fine.
C'est-à-dire que ça existait déjà avant, mais maintenant il le force un peu à l'installation ou à la mise à jour, il dit tu devrais installer Facebook Container, ce qui est plutôt une bonne chose.
Ouais, puis tu peux désactiver certains modules, enfin certaines parties, tu peux le virer sur certains sites quand ça t'emmerde, genre une photo qui s'affiche pas sur Instagram, sur un forum par exemple, tu vois. Des choses qu'on connaît bien. Donc du coup, c'est vraiment bien pensé et c'est vraiment pour nous le meilleur browser actuellement, on le dit régulièrement et on va continuer.
Lâchez Chrome, et vite. Allez, on passe du côté de la culture avec juste une petite news très rapide pour vous signaler la sortie de la première bande-annonce de Beastie Boys Story. Alors, Beastie Boys Story, c'est quoi? C'est un documentaire donc sur les Beastie Boys, forcément, sans doute, qui a été réalisé donc par Spike Jonze et donc qui sortira sur Apple TV+, fin avril. Donc, on aura encore l'occasion d'en reparler, j'imagine. Je voulais vous en parler parce que le premier trailer est sorti et ça a l'air assez particulier, en fait. On a l'impression que c'est une sorte de stand-up des deux membres survivants du groupe, donc Michael Diamond et Adam Horowitz, Mike D et Ad Rock, une sorte de stand-up en fait pendant laquelle ils racontent en fait l'histoire des Beastie Boys et le tout est entrecoupé bien évidemment d'images d'archives, de documentaires divers et variés et ça a l'air assez drôle en fait. Ils sont très, enfin ils se moquent pas mal d'eux-mêmes en fait. Ils expliquent que voilà, c'était avant tout une bande de potes et que ils voulaient faire du rap et qu'au début ils étaient pas très bons et on voit des vieilles vidéos d'archives en fait où effectivement c'était pas très bon. donc ça a l'air assez rigolo. Puis c'est Spike Jonze. Spike Jonze qui se lance dans la réelle de stand-up hein, puisqu'il avait fait aussi le dernier stand-up de Aziz Ansari. Donc voilà, il y a une volonté du réalisateur d'aller de ce côté-là. Donc ça a l'air assez intéressant. Je vous ai linké le trailer donc de ce documentaire, le premier trailer. Il y en aura probablement d'autres. Et donc je rappelle, ça sort sur Apple TV+ fin avril de cette année. Puis on passe du côté de la tech avec des mauvaises nouvelles encore pour nos amis d'Intel. Bah décidément.
Et d'AMD un peu, mais AMD a décidé qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais c'est surtout Intel qui pleure, car nous sommes encore dans une époque de failles, donc des problèmes de sécurité pour les processeurs Intel. Et puis, comme évidemment, eux, c'est vraiment Noël pour eux, ils ont pas une, mais deux grosses failles qui ont été découvertes.
Et qui sont pas patchables en plus, c'est ça?
Il y en a une qui est pas patchable, il y en a une qui touche donc toutes les séries de processeurs sur les cinq dernières années. C'est extrêmement compliqué. Et regardez, nous, au niveau du timing du podcast, il est impossible que je passe deux heures à vous saouler avec ça, sauf si je veux vous endormir. Donc, je vais vous linker les petits papiers à lire chez nos confrères qui sont justement bien plus détaillés et bien plus digestes, on va dire, par écrit que ce que je peux faire à l'oral. Mais sachez, parce que le truc à retenir finalement, c'est que c'est pas grave, dans le sens où oui, c'est chiant, oui, c'est jamais agréable, oui, si vous bossez chez Total ou dans la NASA ou chez Airbus, oui, ça va être un problème parce que vous avez des données sensibles et vous êtes donc des cibles potentielles. Mais en revanche, voilà, si vous êtes graphiste ou journaliste de jeux vidéo comme moi, c'est ou même si vous avez des voilà, vous avez des données voilà de boulot classique, il n'y a pas vraiment de risque parce que c'est extrêmement chiant à mettre en œuvre. Et donc du coup, à part d'être vraiment le fait d'être targeté directement, bon, c'est pas quelque chose qui est industrialisable. En tout cas, sur les trucs que j'ai vus, c'était pas la tournure que ça prenait. Côté AMD, ce qui a été annoncé, c'était fait par un groupe qui semble être financé de chercheurs français, d'ailleurs d'université de Rennes, si je dis pas de bêtises. Et donc il y a un problème sur leur cash, a priori. AMD dit que ce n'est pas exploitable. Le truc que je retiens, c'est qu'a priori, cette bande de chercheurs était payée par Intel, en fait.
Ah bah tiens.
Qui en a marre d'être tout seul sur son bateau et de se faire défoncer partout, tu vois.
Si je tombe, tout le monde tombe.
C'est ça. Donc, c'est assez rigolo. Écoutez, si j'ai plus d'infos à ce sujet-là, je vous les balancerai avec grand plaisir, car là, on est dans le drama croustillant plus que dans la problématique de faille. Mais je vais vous linker, en tout cas, un résumé de tout ce bordel chez Impact Hardware. Alors oui, c'est un papier sur abonnement, mais malheureusement, c'est le plus complet que j'ai trouvé en français et vous aurez l'équivalent version anglaise. Vous aviez qu'à travailler à l'école.
Allez, on termine la section tech et ce podcast avec des news d'AMD, mais des bonnes nouvelles cette fois-ci.
Oui, parce que bon, bah écoute, là, les failles, ça va bien un moment, mais ce qu'on veut savoir, c'est avec ce qu'on aura dans les années à venir, ou en tout cas à la fin de l'année, et AMD a fait pas mal de... comment on appelle ça en anglais déjà, mais de showcase. Enfin, ils ont commencé à teaser ce qu'ils allaient livrer bientôt. Il faut, en annonçant évidemment leurs résultats financiers qui sont au beau fixe depuis que les Ryzen explosent partout. Là, ils annoncent que les Ryzen arriveront bientôt en version 4000. La nouvelle gamme avec une nouvelle microarchitecture qui est donc le Zen 3. Moi, je pensais que c'était 2021 voire 2022, mais a priori, il y aura des versions un peu plus tôt que ça. Donc, écoutez, très bien, et en plus avec un gain de performance qui s'annonce assez intéressant. Donc quand on voit déjà les perfs vis-à-vis des processeurs Intel actuels avec le Zen 2, je pense que Intel, du coup, je comprends qu'ils payent des gens pour trouver des failles, tu vois, parce que c'est pas drôle pour eux, hein, vraiment. Les courbes de vente sont toujours bonnes, hein, tu vois, Intel, ils sont pas non plus à la rue, mais ils prennent très très cher sur le marché, surtout bah, des gens un peu comme nous qui cherchent les meilleures perfs pour des prix intéressants, tu vois. Donc, sachant que les processeurs AMD ne sont pas donnés, hein, parce que quand tu montes sur les gammes, ça commence à monter en prix, mais quand tu compares par rapport à l'offre Intel, t'es quand même toujours gagnant. Ils ont toujours des petits problèmes de carte mère avec des chipsets qui chauffent un petit peu, etc. Mais rien qui empêche de se faire plaisir. D'ailleurs, à part mon problème de Warzone, tu vois, j'ai commencé à regarder certains sites avec l'argent que j'ai pas pour voir enfin renouveler mon PC qui commence à avoir un âge vénérable au niveau du cœur de la machine. Et donc, ça, c'est des nouvelles qui m'intéressent grandement pour savoir quand est-ce que ça sera dispo. Je vais vous linker un papier de Frandroid qui parle de ça et un deuxième papier de Frandroid qui se penche plus sur l'architecture Big Navy et donc les prochaines Radeon, toujours chez AMD, puisqu'ils ont fait plusieurs annonces, qui expliquent justement d'où va sortir leur ray tracing et sur quel type de carte. Évidemment, ils vont pas laisser le champ libre à Nvidia sur cette technologie. Ils veulent aller contrer les RTX 2080 Ti carrément. On parle de performance enfin à armes égales. Ça serait une très très bonne nouvelle pour nos portefeuilles, même si je doute que AMD pète le marché. Hein. Ils ont bien compris que l'argent était là, et que si vous vouliez vraiment des perfs, vous étiez prêts à vous saigner. Faut pas donner des bonnes habitudes comme ça aux constructeurs, hein, vous avez déjà dit. Donc, on attend des news concrètes de ça. Ce papier, en fait, présente la techno qui est utilisée dans les prochaines Xbox et PlayStation 5. On nous explique qu'on aura encore mieux sur PC comme d'habitude, mais que ça sera pas le même prix, évidemment. La roadmap semble extrêmement agressive. Voilà, qu'on voit ce qu'ils ont réussi à faire sur le Ryzen. Ce pendant, on va dire, graphique nous fait bien plaisir et on est quand même pas mal, comment dirais-je, plein d'espoir pour que le marché se tasse un petit peu et que les cartes graphiques de haut de gamme nous délestent pas de 1,5 parce que c'est un peu compliqué après pour, rapport à la bière que tu veux dialyser, tout ça, ça marche pas bien, surtout en Belgique. Hein. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, on suit ça de très près et dès qu'il y aura des infos concrètes, évidemment, on en reparlera.
Et c'est la fin de ce 123e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve dès la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. Je vous rappelle l'existence du Patreon, patreon.com/geekzonefr. Si vous voulez venir nous aider à soutenir la production des podcasts, des papiers, des dossiers, ben c'est là que ça se passe. Vous pouvez laisser 1€, 2€, 5€, tout ce que vous voulez, en fait.
Une carte graphique.
Une carte graphique, par exemple.
Nous, non, ça marche pas, merde.
Alors, nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bon week-end, CAF.
Ouais, je vais continuer de regarder si Warzone marche bien, parce que tu sais, moi, j'aime le travail bien fait. Je n'hésite pas à sacrifier.
C'est ça.
Mon temps. J'étais crédible ou pas?
Bon, d'accord. Trop,
non. Ok, c'est bon. D'accord. Mais je peux pas le streamer, c'est hyper frustrant, tu vois.
C'est vrai. Ah, bah oui,
bon,
c'est
ça arrangerait. Ouais. Donc, donnez au Patreon, j'insiste.
Allez, à la semaine prochaine. Ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.